La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de notre série d'émissions consacrée à l'écrivaine française Annie Ernaux. Une émission que l'on doit toujours à Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Chloé Casmarek et Anne-Vanessa Prévost, sans qui rien ne serait possible, sans oublier aujourd'hui à la console Jean-Frédéric Sam. Annie Ernaux est née en 1940 à Lillebonne, en Seine-Maritime, mais c'est à Yvetot qu'elle va passer la majeure partie de son enfance, dans l'épicerie-café tenue par ses parents, et où elle découvrira petit à petit le poids de la domination sociale qui, avec la passion amoureuse, servira de matériau principal à son œuvre. Elle est l'auteur de très nombreux livres, dans un genre que l'on peut qualifier d'écriture de soi ou de roman de filiation. Parmi eux, on peut citer La Honte, mais également Les Années, ou encore dernièrement Mémoire de fille. C'est toujours chez Gallimard. Lundi, nous avons parlé des lieux d'Annie Ernaux et aussi de sa biographie avec la cinéaste Michèle Porte, tandis que Tiphaine Samoyo évoquait la figure de la jeune fille chez Annie Ernaux. Hier, Dominique Viard a replacé l'écrivaine parmi les autres écrivains de sa génération. Avec lui, nous avons également parlé de Pierre Bourdieu, qui l'a libéré et lui a donné à Annie Ernaux une raison d'agir dans le monde. Enfin, demain, avec Bruno Blankmann, nous parlerons du livre Les Années, qui entremêle vie collective des Français et vie intime de la narratrice durant plusieurs décennies. Nous parlerons également des chansons très présentes dans les textes d'Annie Ernaux. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler notamment des supermarchés comme lieu littéraire, mais également du grand et court récit La Place d'Annie Ernaux, nous sommes avec vous, Pierre-Louis Faure. Bonjour.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous êtes maître de conférence en langue et littérature française à l'université de Cergy-Pontoise. En 2016, vous avez publié un essai intitulé Simone de Beauvoir aux presses universitaires de Vincennes, dans lequel vous montrez que l'adjectif qui représente le mieux Simone de Beauvoir et moins celui de scandaleux, scandaleuse même en particulier ici, que de révolutionnaire. Alors, est-ce que vous pourriez en dire autant d'Annie Ernaux? Est-elle plus révolutionnaire que scandaleuse?
Alors, je pense qu'elle est tout à la fois révolutionnaire et scandaleuse. Je pense qu'elle est révolutionnaire dans le sens où elle va bouleverser les hiérarchies littéraires, et je crois que ça rentre un petit peu en adéquation avec ce que vous aviez déjà pu dire sur Annie Ernaux, sur ce voir autrement qui est justement le cœur de son œuvre, son moteur d'écriture. Et puis elle est peut-être scandaleuse dans la réception ou dans la lecture qu'on en fait parfois, parce que c'est quelqu'un qui justement, en bouleversant les hiérarchies littéraires, qui fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du supermarché un lieu de littérature à part entière, ou encore du RER, ou encore de l'avortement, de la vie nouvelle ou de la passion. Eh bien, elle est parfois reçue comme étant un auteur obscène, et on va lui reprocher finalement, ou en tout cas on va l'accuser d'une double obscénité, une obscénité sociale, et ça nous renvoie d'ores et déjà à La Place ou à toute une partie de son œuvre, et puis une obscénité sexuelle, celle qu'on retrouve dans Passion simple, celle qu'on va retrouver dans l'usage de la photo, ou en tout cas celle qu'on pense y trouver.
Oui. Alors peut-être en particulier dans Passion simple, qui est un récit un petit peu en marge quand même, en tout cas c'est l'impression que ça donne, hein, en tant que lecteur, parmi les autres livres d'Annie Ernaux. On peut peut-être raconter un petit peu l'histoire de cette passion qui est au fond l'attente d'une femme pour son amant, Pierre-Louis Faure, et puis les bouleversements que cela crée dans son rapport au monde.
Oui, c'est un... C'est ce que Annie Ernaux écrit dans Passion simple. À partir de tel moment, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre la visite ou les coups de fil ou des nouvelles de cet homme, cet amant qui reste non nommé, hein, qui est appelé A dans Passion simple. Et c'est une œuvre effectivement très courte et qui va peut-être créer la surprise puisqu'elle arrive après toute la série de textes qui portaient justement sur la question de la déchirure sociale depuis le premier texte en 1974 avec les armoires vides dont vous avez pu parler dans les premières émissions. Jusqu'à La Place, dont on reparlera certainement tout à l'heure, et jusqu'à Une femme. Et Une femme, c'est 1987, Passion simple, c'est 1992. Il y a quelques années qui se passent entre les deux, et Annie Ernaux revient avec ce texte qui finalement va énormément surprendre et qui ne va pas être toujours bien lu ou bien compris comme étant justement une exploration de la passion, mais une exploration de la passion qui ne se fait pas spécifiquement en tant que moi, Annie Ernaux, si je voulais emprunter sa voix, mais qui est comme à chaque fois une exploration de soi pour mieux s'ouvrir à l'expérience commune, à ce que c'est justement cette obsession dont vous parliez à l'instant.
Alors le mieux peut-être, Pierre-Louis Fort, c'est d'en écouter justement un extrait lu par Dominique Raymond.
À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots, les phrases, le rire même se formaient dans ma bouche, sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine avaient toutes un lien avec cet homme. Lire dans le journal des articles sur son pays, il était étranger. Choisir des toilettes et des maquillages, lui écrire des lettres, changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre, noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois qui était susceptible de l'intéresser, acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble, imaginer dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Dans les conversations, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme, sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. De même, en lisant, les phrases qui m'arrêtaient avaient trait aux relations entre un homme et une femme. Il me semblait qu'elles m'apprenaient quelque chose sur A et donnaient un sens certain à ce que je désirais croire. Ainsi, lire dans « Vie et destin » de Grossmann que « Lorsqu'on aime, on ferme les yeux en embrassant » me portait à imaginer que A m'aimait puisqu'il m'embrassait ainsi.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Annie Ernaux avec vous, Pierre-Louis Fort, et ce texte extrait de Passion simple. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ce texte pour la première fois? Parce que là, on fait une analyse toute la semaine de la littérature d'Annie Ernaux. Mais il faut peut-être dire aussi à quel point ce sont des romans qui procurent un plaisir de lecture très très important. Vous vous souvenez-vous de votre lecture de ce livre?
Alors la lecture de Passion simple, oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens même très concrètement être allé acheter le livre, ce genre de choses, puisque j'étais à ce moment-là déjà un fervent lecteur de Annie Ernaux que j'avais rencontré quelques années auparavant par l'intermédiaire de La Place. Alors la lecture
Vous étiez allé la voir?
Alors je suis allé la voir quand j'ai préparé un ouvrage parascolaire pour Gallimard. Donc je suis allé la voir à ce moment-là à Cergy-Pontoise, et on était quelques années plus tard, parce qu'on était au début des années 2000.
Votre université, c'est l'université de Cergy-Pontoise, donc c'était finalement en voisin hein, que vous lui aviez rendu cette visite. Alors, Passion simple, c'est donc le livre d'une femme qui se donne totalement à un homme. Est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui pose question dans l'acception du féminisme ? Parce que on peut se demander comment la narratrice de Passion simple, quel est son rapport avec la domination masculine, étant donné qu'elle-même se donne totalement à cet homme et qu'elle finalement passe sa vie à l'attendre.
Je pense que la nuance par rapport à cette question de la domination, elle se fait justement par le biais du substantif que vous avez, enfin du verbe que vous avez choisi, se donner. Donc il y a un choix réel, même si c'est sous l'emprise de la passion, puisque c'est exactement ça qui, enfin, dans l'extrait que nous venons d'entendre, on voit bien justement l'absolue impossibilité de passer à autre chose ou d'avoir un centre d'intérêt qui soit autre que cette histoire qui est en train de se dérouler.
C'est une servitude volontaire en même temps.
C'est une servitude amoureuse.
Servitude amoureuse, oui.
Je crois, oui.
Est-ce que là, et je m'adresse à celui qui a travaillé sur Simone de Beauvoir, on peut faire un parallèle entre le féminisme de Simone de Beauvoir et puis le rapport aux femmes d'Annie Ernaux, politiquement parlant ?
Oui, alors Annie Ernaux elle-même revient plusieurs fois sur sa relation à Simone de Beauvoir. Elle a d'ailleurs écrit un texte sur qui doit s'intituler « Le lien qui me lie à Simone de Beauvoir ». Alors il y a quelque chose de très fort entre Annie Ernaux et Simone de Beauvoir, alors qu'il se joue autour du deuxième sexe, évidemment, puisque vous avez parlé longuement hier de Bourdieu, dans le texte qu'elle consacre à Bourdieu en 2002 au moment de sa disparition. Elle revient sur l'importance fondamentale que Simone de Beauvoir a pu avoir pour elle, en disant que finalement ce qu'elle avait lu et ce qu'elle avait retrouvé chez Simone de Beauvoir au niveau de la condition féminine, finalement était aussi important que ce qu'elle avait pu lire et voir chez Bourdieu sur la relation dominant-dominé, finalement, socialement.
Elle parle à propos de Bourdieu et de Beauvoir de l'irruption d'une prise de conscience sans retour.
Oui, je crois que le sans retour sur lequel vous insistez est effectivement très important. Puisqu'à partir du moment où il y a prise de conscience, justement, de ces réalités-là et de ces mécanismes-là, eh bien, ne va plus pouvoir penser le monde différemment, ou en tout cas penser le monde de la même façon qu'auparavant, et puis elle ne va pas pouvoir écrire comme elle aurait écrit si elle n'avait pas lu Bourdieu ou si elle n'avait pas lu Simone de Beauvoir.
Et ça débouche aussi sur une colère. Le mot de colère a du sens dans l'engagement d'Annie Ernaux.
Oui, les colères, c'est la colère, c'est un moteur d'écriture aussi pour elle. La colère, c'est ce qui survient quand, par rapport à des événements, ce qui survient quand elle se dit, mais qu'est-ce qui fait que les choses ne sont pas comme elles devraient être ? Et c'est ce qui va provoquer parfois un certain engagement au sens large ou un engagement d'écriture. Et on peut penser, par exemple, au point de vue politique, à toutes les tribunes qu'elle a pu produire ou qu'elle a pu co-signer.
Alors contre Nicolas Sarkozy, par exemple ?
Oui, autour de la fête du travail, effectivement, il y a quelques années. Elle a également, par exemple, hier, elle a co-signé une tribune concernant les enfants nés par GPA. Mm-hmm. Donc c'est un engagement qui est constant et qui est très lié finalement à son positionnement politique. Il y a un entretien ou un texte, je ne sais plus, dans lequel elle dit, peut-être que c'est dans Politis, où elle définit finalement ce que c'est qu'être de gauche pour elle. Et elle se dit, pourquoi tout ce que moi j'ai, les autres ne pourraient pas l'avoir ? Et finalement, c'est un petit peu ça aussi qui va pouvoir occasionner ou susciter la colère parfois.
Elle peut aussi s'élever contre les écrits de Richard Millet.
Bien sûr.
La préposition contre Richard Millet.
Oui, en disant qu'il déshonorait la littérature française. Donc là, effectivement, et c'est une tribune qui a fait beaucoup de bruit, hein, vous vous en souvenez, dans Le Monde il y a quelques années, et qui avait été accompagnée par plusieurs co-signataires et qui avait eu un impact assez important dans le monde des lettres.
Hein. Plusieurs, mais pas assez à son goût, puisqu'elle considère que les écrivains aujourd'hui ne s'engagent pas assez et devraient s'engager justement davantage, peut-être plus comme par le passé.
Oui, même si elle pense que c'est aussi un petit peu la faute des médias, qui ne donnent pas non plus la voix aux écrivains comme ils pouvaient le donner auparavant. Et puis, peut-être, vous recevrez demain Bruno Blankmann. Et il y a aussi peut-être un changement de paradigme entre ce qui avait pu être l'engagement à la Beauvoir et à la Sartre et puis ce qui serait aujourd'hui davantage du côté de l'implication, c'est-à-dire peut-être plus cette posture surplombante, mais cette posture d'accompagnement au niveau d'un engagement social et culturel.
Alors on dit, elle l'a dit d'ailleurs dans Le vrai lieu qu'écrire, c'était intervenir dans le monde. Est-ce qu'elle intervient dans le monde quand elle tient le journal, par exemple, de ses visites à l'hypermarché Auchan des Trois Fontaines à Cergy, comme par exemple dans son livre « Regarde les lumières, mon amour ». C'est une question qui n'est pas... si ironique d'ailleurs, c'est peut-être un point de vue politique sur la société que la description d'un supermarché. Quel est votre avis là-dessus, Pierre-Louis Faure ?
Alors c'est un des livres, alors c'est un livre qui rentre dans une collection particulière aussi, hein, de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Raconter la vie ». Et cette immersion, alors c'est assez amusant puisqu'elle la considère... On peut l'envisager de deux points de vue, ce texte-là. On peut l'envisager d'une part dans la tradition de son écriture diaristique, une écriture du journal. Alors je ne parle pas du journal d'écriture qui est quelque chose de particulier, mais des journaux tels qu'on a pu les lire auparavant, comme La Vie extérieure ou encore Le Journal du dehors.
Où elle parle justement dans La Vie extérieure du supermarché.
Alors elle en parle déjà, effectivement, mais c'est assez amusant puisque on commence avec Le Journal du dehors, on est en 1993. Regarde les lumières, mon amour, on est en 2014, donc il y a beaucoup d'années qui sont passées entre les deux. Et donc on voit l'évolution aussi de la place et de la fonction du supermarché dans la vie quotidienne. Et là aussi, il y a un regard politique extrêmement fort dans cette œuvre-là.
Parce que l'évolution, c'est que le supermarché prend plus de place, c'est ça ?
C'est que le supermarché prend de plus en plus de place. C'est aussi qu'il va jouer comme une caisse de résonance par rapport à un certain nombre de questions qui vont être des questions importantes comme le rapport à l'exclusion, le rapport au genre. Vraiment, elle met l'accent est mis dans « Regarde les lumières, mon amour » sur l'humiliation aussi que le supermarché peut infliger à ses propres consommateurs.
Alors, on va pouvoir développer un petit peu tout ça, mais d'abord... un extrait, justement, de « Regarde les lumières, mon amour », toujours lu par Dominique Raymond.
Vendredi 7 décembre 2012, 20h45. Dans le centre, tous les commerces sont clos depuis trois quarts d'heure. Certains, comme la pharmacie, ont baissé un rideau de fer. D'autres ont sur la devanture, faiblement éclairée, une espèce de voile métallisée qui laisse entrevoir l'étalage dans une lumière tamisée. Les illuminations de Noël sont en partie éteintes, les fausses rues dans une semi-pénombre. Les gens que je croise ont un aspect fantomatique. Plus que les autres soirs où je vais tardivement à Auchan, seul ouvert avec le McDo et le Flunch, sentiment de désolation. La féerie s'est éteinte jusqu'à demain matin. Au milieu de l'après-midi, il y a beaucoup de femmes seules, d'un certain âge ou jeunes, accompagnées d'enfants, qui font leurs courses avec leurs poussettes de marché en tissu plastifié. Signe qu'elles sont venues à pied ou en bus parce qu'elles ne savent pas conduire ou qu'elles ne disposent pas d'une voiture. À partir de 17h, afflue des gens qui sortent du travail. Un tempo rapide, bousculant, s'empare des lieux. Écoliers avec des mères, lycéens. Entre 20 et 22 heures, des étudiants. Et, plus rare à un autre moment du jour, des femmes en longues robes et voiles amples, toujours accompagnées d'un homme. Est-ce que ces couples choisissent le soir par commodité ou parce qu'ils se sentent moins dévisagés à cette heure tardive et de moindre fréquentation ? Il y a des gens, des populations qui ne se croiseront jamais. Le journal municipal m'apprend que 130 nationalités sont présentes sur l'ensemble du territoire de Cergy. Nulle part ailleurs, elle ne se côtoie autant qu'au centre commercial des Trois Fontaines, à Auchan. C'est ici que nous nous habituons à la présence proche des uns et des autres, mus par les mêmes besoins essentiels de nous nourrir, nous habiller. Qu'on le veuille ou non, nous constituons ici une communauté de désir. Depuis 15 ans, ce n'est pas la présence des minorités visibles que je remarque dans un lieu, c'est leur absence.
Compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de Regarde les lumières, mon amour, livre dans lequel Annie Ernaux parle précisément de l'hypermarché au champ de Cergy, Pontoise, en scandant la vie, la vraie, au champ. Mais c'est peut-être pas si bête en fait, parce que la vie, la vraie, c'est aussi vraiment le supermarché. C'est ça qu'elle essaye de nous dire.
Oui, ça participe de... Cette idée de légitimer des sujets qui ne sont a priori pas légitimes dans la littérature.
C'est la première à l'avoir fait, à ce point-là?
À ce point-là, oui, on peut dire que c'est la première à consacrer un livre exclusivement au supermarché. Regarde les lumières, mon amour, à mon sens, effectivement, est la première œuvre qui soit de cet ordre-là.
C'est un petit livre. Il y a des supermarchés chez Houellebecq, par exemple, qui n'est pas du tout dans l'orbite d'Annie Ernaux, mais enfin, ça existe quand même chez lui, les supermarchés.
Oui, on retrouve aussi chez Vignier, mais il me semble que rentrer dans une enquête qui soit tout à la fait... Vraiment, le terme d'enquête me semble important. Il y a plusieurs reprises, elle se donne également à voir, puisque voyant les autres, elle se donne également à voir. Il y a toute une interrogation sur la pulsion scopique et puis sur la sémiologie, le supermarché comme lieu du voir et de l'interrogation de se voir. Et la posture d'enquêtrice est une posture qu'elle adopte et dont elle parle elle-même dans ce livre. Alors c'est vrai que c'est un petit livre, comme vous le disiez.
Par la taille.
Par la taille, bien sûr. Mais la plupart des livres d'Annie Ernaux sont, par la taille, des petits livres. Finalement, vous avez comme livre de plus grande ampleur, alors vous avez effectivement Mémoire de fille, vous avez L'apparition de se perdre, ou évidemment Les années dont vous parlerez certainement davantage demain. Mais voilà, la taille ne fait rien à l'affaire, en quelque sorte.
On s'est beaucoup moqué de cette littérature, cette idée que avant les écrivains étaient des écrivains voyageurs et que maintenant les écrivains poussaient leur caddie et écrivaient là-dessus. Donc ça n'a pas été facile non plus de légitimer dans la littérature un lieu comme l'hypermarché, le supermarché, Pierre-Louis Faure.
Non, mais au moment de la réception, de nouveau, on a pu se moquer de ce livre, de ce « Regarde les lumières, mon amour », comme on avait pu le faire, effectivement, vous parliez des récits qu'Annie Ernaux fait de ses voyages dans le RER. On avait pu parler d'elle comme de la Madone du RER, effectivement, avec beaucoup de condescendance, ou justement, non plus l'écrivain voyageur, mais l'écrivain qui va pousser son caddie. Alors effectivement, c'est certainement une posture très facile, de pointer du doigt des audaces nouvelles. Et je pense, pour rester sur cette question-là, que justement à la fin de « Regarde les lumières, mon amour », met en avant justement tous les changements dont nous sommes témoins, sans forcément pouvoir bien les saisir, et c'est le rôle de la littérature certainement de bien les saisir, puisqu'elle termine en disant que peut-être dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, on se souviendra de nos sorties au supermarché avec une certaine nostalgie.
Alors, quand vous expliquez, au fond, que ce qu'elle fait, c'est avant tout d'écrire, c'est vraiment parce qu'elle se met dans la position de la spectatrice, parce que pour elle, le supermarché, l'hypermarché, c'est réellement un spectacle. Et ça, c'est très intéressant dans ce livre, Pierre-Louis Faure, cette dimension spectaculaire, finalement, du quotidien du supermarché.
Oui, elle emploie elle-même le terme à plusieurs reprises en parlant du spectacle du vivant. Et c'est finalement toujours cette idée de Theatrum Mundi qu'on retrouve en quelque sorte dans Regarde les Lumières, mon amour. Finalement, ça va être de voir tout à la fois, et ça renvoie à l'extrait qui a été lu tout à l'heure, à la fois ce qui s'y joue et ce qui ne s'y joue pas, c'est-à-dire ce qui reste aussi à la porte du supermarché.
On va écouter une chanson choisie ici par Laurence Millet qui illustre, je crois, assez bien cette idée de la ville nouvelle dont nous parlons depuis tout à l'heure avec vous, Pierre-Louis Faure, et dans la perspective d'Annie Ernaux.
« la ville. Rien, tu n'as rien vu à comme la vie. Tu n'as rien vu à comme la vie. Non, tu n'as rien vu à comme la vie. Et l'hôpital, tu l'as vu le très bel hôpital. Et l'église en béton armé. Et le si joli petit canal. Tu n'as rien vu à comme la ville. Tu n'as rien vu à comme la ville. Non, tu n'as rien vu à comme la ville. Et les parkings si bien éclairés, les cités HLM, le supermarché.
Alors contrairement au groupe Mendelssohn qu'on vient d'entendre, Annie Ernaux, elle aurait vu sans doute beaucoup de choses à Comble-la-Ville si elle s'y était rendue, peut-être y est-elle d'ailleurs allée, Pierre-Louis Fort, en tout cas elle voit beaucoup de choses à Cergy-Pontoise, comme vous j'ai envie de dire, vous êtes peut-être allée d'ailleurs au supermarché Auchan, puisque c'est sur le chemin quand vous allez donner vos cours à l'université de Cergy-Pontoise.
Ah oui, j'y suis allé à plusieurs reprises, ainsi qu'au centre commercial des Trois Fontaines, dont il est question non seulement de regarder les lumières, mon amour, mais aussi dans les années. Hein. Dans les années, il y a. C'est pas parce qu'on focalise sur les supermarchés, les hypermarchés, les centres commerciaux de manière générale, dans Regarder les lumières, mon amour, qu'il n'y a pas déjà cette présence finalement qui est filée dans l'ensemble de l'œuvre.
Et c'est pas étonnant parce que le supermarché, l'hypermarché, a une place dans la vie d'Annie Ernaux, et vous expliquez que au fond, ça fait partie de son travail d'écrivain que d'aller au supermarché quelquefois, alors pour regarder, on l'a dit, mais aussi tout simplement parce que parfois elle est mécontente de ce qu'elle a écrit, ou au contraire, elle est très contente de ce qu'elle a écrit, et donc si elle est mécontente, elle va se changer les idées à Auchan, et si elle est très contente, elle va se faire un cadeau à Auchan aussi. C'est important l'imbrication finalement de la vie d'Annie Ernaux jusque dans sa manière de travailler, dans son agenda quotidien en rapport avec ces lieux, ces non-lieux, diraient certains, du supermarché.
Alors justement, c'est pour elle, c'est exactement l'inverse d'un non-lieu, les supermarchés. On n'est pas du tout dans ce dont a pu parler Marc Auger lorsqu'il a élaboré sa théorie des non-lieux. Elle ne voit pas du tout ni les supermarchés ni la Ville Nouvelle comme étant un non-lieu. Bien au contraire, ce sont des lieux où s'écrivent déjà l'histoire, où une certaine histoire.
Il y a une vision architecturale, urbanistique chez Annie Ernaux, une culture urbanistique aussi.
Il y a une sensibilité, en tout cas urbanistique, par rapport à cette ville où elle arrive, pour des raisons de profession de son mari, dans les années 70, qui est une ville qui est en train de sortir de terre, comme toutes les villes nouvelles. Et pour revenir à ce que vous me disiez juste avant, sur le délassement qu'on peut éprouver quand on se promène dans ce genre de lieu, ça renvoie plus intimement, ou en tout cas plus profondément, à la question du désir aussi. C'est la question de ce désir. Alors le désir de consommation, mais aussi, et on revient peut-être à ce dont on parlait au début de l'émission, mais au désir de manière beaucoup plus large, qui est un des éléments moteurs.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pierre-Louis Fort, nous allons continuer en seconde partie de cette émission à parler avec vous d'Annie Ernaux et en particulier de son récit La Place. Mais pour l'heure, c'est le moment d'En compagnie des revues. On est très heureux de vous retrouver, Alexis Broca, du magazine littéraire, du nouveau
Bonjour
magazine
Mathieu.
Littéraire.
Bonjour Pierre-Louis.
Bonjour. J'imagine que vous êtes lecteur d'Annie Ernaux. Êtes-vous également flâneur de supermarché? Car les deux vont ensemble, si vous avez bien compris la première partie.
Oui, j'ai compris, mais je dois vous avouer tout de même que je suis beaucoup plus flâneur de supermarché que lecteur de Annie Ernaux. Simplement parce que...
Avec les podcasts, maintenant, on peut écouter des émissions sur Annie Ernaux en faisant ses courses.
C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'au magazine littéraire, il y a de grands, grands, grands lecteurs d'Annie Ernaux. Je pense à Juliette Hénorme notamment. Et on lui a d'ailleurs consacré un grand entretien il y a un an et demi à peu près. Donc Annie Ernaux est une chasse gardée, mais enfin, je ne désespère pas un jour de pouvoir la lire, bien sûr.
Bon, l'appel est lancé. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine littéraire du mois de janvier?
Écoutez, la dernière fois, je vous avais parlé de la ligne éditoriale de ce nouveau magazine littéraire qui ambitionnait de porter un regard imprégné de littérature sur les faits d'actualité et sur le monde contemporain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte en fait qui me semble incarner vraiment cette ligne et qui est paru dans notre premier numéro. Il s'agit de la nouvelle qu'a rédigée pour notre journal la romancière Leïla Slimani. Alors cette nouvelle, elle s'appelle La Confession, elle s'intitule La Confession, et elle nous raconte l'initiation sexuelle d'un jeune Marocain de 16 ans. On sait que ce sujet, celui de la sexualité en terre d'islam, passionne Leïla Slimani, vraiment. Elle y a consacré un essai qui s'appelle Sexe et mensonges, qui est paru en septembre dernier. Et en ce sens, cette nouvelle fournit une illustration en fiction de certains des témoignages qui étaient recueillis dans l'essai. Alors très vite, la nouvelle, elle est racontée par un garçon, il est donc le narrateur, il a 16 ans, il a grandi à la ville, c'est un fils de notable, et cet été-là, on l'envoie au bled pour, lui dit son père, apprendre à vivre. Et là-bas, il s'ennuie, il cherche une occasion de se distraire, et dans ce village où il passe cet été, on raconte beaucoup d'histoires, et notamment l'histoire du moment, c'est celle d'une jeune fille qui a été chassée par son clan pour son comportement déluré et qui erre sur les routes de campagne. Et un jour, le narrateur est emmené dans la campagne pour ramasser de l'herbe pour les bêtes en compagnie d'un paysan qui est par ailleurs un obligé de son père. Et là, dans la solitude d'un champ, il croise la jeune fille. Le paysan s'arrête et offre littéralement la jeune fille au jeune homme. Et ce jeune homme, évidemment, il ne s'est jamais vécu comme un violeur, mais il accepte. Et il viole cette fille. Et ensuite, dans un paradoxe insoutenable, il tente de la traiter avec sollicitude. Et bien sûr, il partira en emportant avec lui la culpabilité du crime qu'il a commis et qu'il ne sait pas nommer. Alors c'est un texte remarquablement écrit, hein, parce qu'il faut bien de la finesse pour se mettre ainsi dans la peau d'un violeur ordinaire, dans la peau d'un violeur de circonstances, et montrer toutes les pensées contradictoires qui le traversent.
Alors évidemment, c'est une nouvelle qui résonne avec l'actualité du hashtag Balance ton peur. J'imagine que Leïla Slimani ne peut pas ne pas y avoir pensé.
Oui, alors elle a écrit avant d'avoir réagi en fait à la polémique, mais en effet tout cela est connexe. Leïla Slimani, en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, est intervenue dans cette polémique qui est née de la tribune signée entre autres par Catherine Deneuve et Catherine Millet dans Le Monde. C'était une tribune qui était en réaction au mouvement Balance ton peur. Et les signataires de la tribune défendaient en fait une sorte de droit d'importuné en matière de séduction, qui, en ces temps de mise au point sur le harcèlement des femmes, a été extrêmement fraîchement reçu. Leïla Slimani a répondu en fait à cette tribune par un texte qui est très pondéré, où elle revendique le droit de ne pas être importunée, et où elle s'étonnait surtout de cette idée que le droit d'importuner qui semble en fait confirmer une vision absolument déterministe de l'homme en importun. Elle semble condamner l'homme, vouer l'homme à importuner à l'infini les femmes.
D'ailleurs, dans importun, il y a porc.
Hein. Exactement, voilà. D'ailleurs, elle avait joué là-dessus, elle avait titré sa tribune « Importuné ». Voilà. Pour bien montrer ce déterminisme. Et en fait, cette nouvelle qu'elle a écrite avant, elle reflète tout à fait cette façon dont les hommes peuvent se retrouver pris dans une vision déterministe de la virilité, puisque son jeune narrateur, il n'a pas particulièrement envie de commettre ce crime. Il ne s'est jamais pensé comme un violeur ou comme un criminel. Mais les gens qui l'entourent, eux, pensent qu'il a envie de cette fille. Et c'est pourquoi on la lui offre comme une sorte de cadeau. Et lui, il l'accepte, poussé par la pression sociale, poussé aussi sans doute par ses hormones, mais une part de lui reste consciente. Et c'est de cette part que naîtra la culpabilité.
Très bien, écoutez, j'imagine qu'on aura du coup le plaisir de lire chaque mois des nouvelles dans
le
magazine littéraire.
Je peux même vous dire que le mois prochain, ce sera Alice Zeniter qui occupera
ça. Très bien, vous reviendrez pour nous en parler. Merci beaucoup,
merci
Alexis
Mathieu.
Broca, à bientôt.
À bientôt.
Jusqu'à demain, la Compagnie des auteurs se penche donc sur l'œuvre d'Annie Arnaud, révélée en 1984 par le prix Renaudot, obtenu pour son livre La Place. La Place qui raconte ses parents, qui raconte la relation qu'elle a eue avec eux et la souffrance aussi d'appartenir à une partie dominée de la société, La Place, dont voici tout de suite un extrait.
Quand je lis Proust ou Mauriac, je ne crois pas qu'ils évoquent le temps où mon père était enfant. Son cadre à lui, c'est le Moyen-Âge. Il faisait 2 kilomètres à pied pour atteindre l'école. Chaque lundi, l'instituteur inspectait les ongles, le haut du tricot de corps, les cheveux à cause de la vermine. Il enseignait durement la règle de fer sur les doigts, respectée. Certains de ses élèves parvenaient au certificat dans les premiers du canton, un ou deux à l'école normale d'instituteurs. Mon père manquait la classe à cause des pommes à ramasser, du foin, de la paille à botteler, de tout ce qui se sème et se récolte. Quand il revenait à l'école avec son frère aîné, le maître hurlait « Vos parents veulent donc que vous soyez misérables comme eux. » Il a réussi à savoir lire et écrire sans faute. Il aimait apprendre. On disait apprendre tout court, comme boire ou manger. Dessiner aussi des têtes, des animaux. À 12 ans, il se trouvait dans la classe du certificat. Mon grand-père l'a retiré de l'école pour le placer dans la même ferme que lui. On ne pouvait plus le nourrir à rien faire. On n'y pensait pas. C'était pour tout le monde pareil. Il s'est mis à traire les vaches le matin à 5 heures, à vider les écuries, panser les chevaux, traire les vaches le soir. En échange, blanchi, nourri, logé, un peu d'argent. Il couchait au-dessus de l'étable, une paillasse sans drap. Les bêtes rêvent, toute la nuit, tapent le sol. Il pensait à la maison de ses parents, un lieu maintenant interdit. L'une de ses sœurs, bonne à tout faire, apparaissait parfois à la barrière avec son baluchon, muette. Le grand-père jurait, elle ne savait pas dire pourquoi elle s'était encore une fois sauvée de sa place. Le soir même, il la reconduisait chez ses patrons, en lui faisant honte.
C'est une description du Moyen-Âge que fait Annie Ernaux. C'est en tout cas comme ça qu'elle qualifie l'enfance de son père. C'est très fort ça comme expression. Peut-être que c'est justement dans cette description moyenâgeuse de l'enfance de son père, c'est-à-dire de ce qui n'est pas elle, mais de ce qui est tout de même bien avant elle, que se situe le plus la force de la place. Qu'en pensez-vous, Pierre-Louis Faure ?
Je pense qu'effectivement, il y a deux choses par rapport à cette histoire de Moyen-Âge. Quand je lis Proust ou Mauriac, déjà, il y a une petite allusion très importante à Proust, puisque c'est quelqu'un qui, comme Annie Ernaux, va interroger la mémoire, même s'ils ont des manières radicalement différentes de le faire et qu'ils n'y cherchent pas forcément la même chose. Mais Proust est quelqu'un d'important pour Annie Ernaux. Le Moyen-Âge, évidemment, c'est hyperbolique pour accentuer sur l'aspect extrêmement rudimentaire de la vie de son père, mais vie dont finalement elle est héritière, en tout cas dans son enfance, même si ses parents vont tout faire justement pour que elle puisse se réaliser. Et dans l'extrait qui vient d'être lu, il est question de l'école, notamment. Donc justement le rôle de l'école est extrêmement important. On le retrouve aussi dans les années, puisqu'il y a beaucoup d'échos évidemment entre les années et la place, et le fait effectivement que son père ne va pas pouvoir poursuivre sa scolarité. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, tandis qu'elle, elle va être poussée aux études. Et quand je dis poussée aux études, je cite ce que son père va dire pour se justifier, puisque quand elle arrive au lycée, finalement les gens du café s'étonnent un petit peu qu'elle ne soit pas déjà en train de travailler et qu'elle soit partie sur une autre trajectoire. Et justement, il va dire on ne la pousse pas, elle a ça dans elle. Mmh. Et c'est justement toute cette éducation-là, toute cet accès à l'instruction, favorisé par ses parents, notamment, et peut-être encore plus spécifiquement par sa mère, qui va entraîner cette trajectoire, qui est une trajectoire, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de transfuge de classe.
Est-ce que c'est un livre qui transforme son lecteur ? Est-ce que c'est un livre qui vous a, par exemple, transformé quand vous l'avez lu ?
Alors, je crois que La Place, pour moi, c'était une découverte fondamentale, parce que ça ne renvoyait pas à ma propre trajectoire, mais peut-être plus aux trajectoires antérieures dans ma famille. Et j'avais l'impression, en lisant La Place, de retrouver des choses que j'avais pu toucher du doigt, aussi pour des histoires chronologiques, temporelles, puisqu'on n'est pas tout à fait de la même génération. Et c'est une œuvre qui, effectivement, donc, m'a touché, moi, personnellement, pour ces échos-là. et qui a touché énormément de lecteurs. Les courriers que reçoit Annie Ernaux à ce propos sont incroyablement volumineux.
Encore aujourd'hui ?
Et encore aujourd'hui, oui, bien sûr.
Oui. Alors vous êtes allé la voir justement pour préparer le dossier de l'édition Folio Plus de ce récit aux éditions Gallimard. Est-ce qu'on peut vous demander comment s'est passée cette rencontre ?
Alors pour moi, c'était une rencontre très importante. J'avais peur de cette rencontre avec l'auteur. Je ne savais pas comment ça allait se jouer, ce passage du texte à la rencontre réelle avec l'écrivain.
Surtout qu'elle avait beaucoup expliqué déjà son travail d'écrivain.
Oui, alors j'ai essayé justement de lui faire dire d'autres choses que ce qu'elle avait pu déjà dire. Et puis pour moi, c'était déjà aussi une entrée dans un univers littéraire. Rien que le fait, à l'époque, je ne travaillais pas encore à Cergy Pontoise, rien que le fait d'emprunter ce RERA sur lequel j'avais déjà pu lire beaucoup de choses dans les textes d'Annie Ernaux, ou d'arriver dans cette fameuse ville nouvelle dont je n'avais absolument aucune idée. Et donc de voir Annie Ernaux sur le quai du RER qui m'attendait, c'était quelque chose d'assez impressionnant.
Elle est venue vous chercher, ben ça c'est plutôt sympathique de sa part. Est-ce qu'elle vous a expliqué à quel point c'était pour elle ce récit un tournant dans sa manière d'écrivain ?
Oui, et je crois que au-delà de ces explications a posteriori qu'elle peut donner, je crois qu'on les trouve d'ores et déjà, enfin d'emblée dans la place. Ce qui est vraiment très intéressant et très important, et puis c'est quelque chose de récurrent dans la poétique d'Annie Ernaux, c'est la métatextualité, la façon dont elle s'interroge sur l'écriture en train de s'accomplir. Alors non pas, j'en ai parlé tout à l'heure dans les journaux d'écriture, mais dans le texte lui-même. Et la place, il y a effectivement dès le début plusieurs pages qui sont des pages réflexif sur le projet, sur ce qui est en jeu, sur la façon dont elle veut le réaliser et sur la façon dont elle veut l'écrire. Tout en sachant que, et elle le redit dans La Place, que justement elle avait déjà commencé quelques années auparavant, puisque La Place c'est 1984, or son père est décédé bien auparavant, en 1967. Donc il y a plusieurs années qui se passent. Alors il y a la complexité de la vie de manière générale. Mais elle commence un roman et elle se rend compte que non, le roman ce n'est pas du tout l'endroit textuel rêvé pour parler justement de son père. Et donc il va falloir inventer autre chose. Et à partir, alors non pas qu'elle n'invente pas avant avec Les Armoires vides, Ceux qui disent ou rien ou La Femme gelée, où on est déjà dans une littérature qui est déjà très, très marquée, très façonnée, mais il y a une rupture, en tout cas stylistique, très importante entre un ton peut-être plus célinien dans les premières œuvres et puis ce passage à ce qu'on va appeler et qui va faire débat l'écriture plate.
Donc vous avez pu consulter les manuscrits et leur évolution pour voir à quel moment elle trouve sa manière qui va lui permettre d'écrire un récit beaucoup plus fort que ce qu'aurait été un récit si elle avait suivi ses premières inspirations, comme vous le dites, plus céliniennes.
Oui, alors j'ai pas eu accès au premier roman, enfin à la première ébauche de roman qu'elle avait pu produire sur,
peut-être qu'elle l'a pas gardé,
sur son père. Je vous avoue que je n'en sais
pas.
Rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France, qu'il y a un certain nombre de mes collègues qui travaillent beaucoup sur la génétique textuelle et qui s'intéressent beaucoup à la façon, François Simonet-Tenant par exemple, à la façon dont les textes d'Annie Ernaux ont pu être travaillés. Elle a par exemple fait des études sur l'autre fille. En ce qui concerne La Place...
Parce qu'elle retravaille beaucoup, hein, paraît-il.
Elle retravaille beaucoup, oui. C'est un vrai... Enfin, d'où cette nécessité parfois de se délasser en allant faire autre
champ,
chose.
Bah, évidemment. Ou ailleurs, hein, on n'est pas pour une marque ou pour une autre ici.
Mais non, en fait, c'est que cette impression de simplicité n'est vraiment qu'une impression. C'est une écriture qui est extrêmement travaillée. Finalement, réussir à faire de l'écriture plate, si tant est que ce soit vraiment de l'écriture plate, c'est un travail de longue haleine.
Donc, vous le rappelez, c'est un livre, un récit... qui a pour commencement la mort du père en 1967. C'est deux mois après la réussite de sa fille, donc Annie Ernaux, aux épreuves pratiques du CAPES. Ça n'est pas sans importance, j'imagine, puisque le sujet, c'est aussi ça, l'éloignement par l'éducation de la famille, Pierre-Louis Faure. C'est aussi un élément important du roman, enfin du livre.
Oui, alors justement, donc on est plus dans le roman, on est dans un récit, et la construction est extrêmement importante, comme vous le soulignez, puisque contrairement à une femme, puisque une femme en 1987, ça va être un petit peu l'œuvre qui va faire écho à La Place. Elle fait avec une femme pour sa mère ce qu'elle a fait avec La Place pour son père. Une femme commence directement par l'évocation de la mort de sa mère, hein, c'est la première phrase. Tandis que pour son père, on commence, pour le livre consacré à son père, on commence justement avec cette épreuve qui est une épreuve symbolique, qui est une épreuve de passation. Il y a quelque chose de l'ordre du changement social extrêmement forte. Et immédiatement après, effectivement, il est question, dès le deuxième paragraphe, « Mon père est mort 2 mois après, jour pour jour ». Donc la construction nous incite effectivement à lier ces deux éléments de façon extrêmement tendue.
Alors, ça n'est pas la première fois qu'un écrivain s'empare évidemment de la mort du père pour raconter à la fois la vie du père et puis pour explorer justement les questions de filiation et notamment d'un point de vue social. Vous citez, et je crois que Annie Ernaux a écrit aussi sur ce sujet, vous citez Paul Nizan et son roman Antoine Bloyer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le parallèle qu'on peut faire entre ce roman et La Place ?
Oui, alors vous parlez de Nizan, on aurait pu parler également de Jean Guéhenno, qu'elle évoque également. Ce qui me semble particulièrement frappant dans La Place, c'est cette volonté qu'elle met en avant à plusieurs reprises de s'arracher du piège de la singularité. C'est-à-dire que racontant la vie de son père, elle essaye d'aller, et tout à l'heure on parlait de communauté, elle essaye de s'ouvrir beaucoup plus largement. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu cette même idée qui est à l'œuvre dans les textes. C'est un jeu qui va s'ouvrir sur le monde et sur les résonances qu'il peut avoir avec les autres. Donc elle s'inscrit effectivement dans une tradition du questionnement social, mais qu'on pourrait faire remonter aussi plus loin à Victor Hugo ou encore à Stendhal avec Julien, etc.
Je vous propose d'écouter sur la question de l'autobiographie qu'on lui a beaucoup posée et qui se pose aussi évidemment concernant La Place. Je vous propose d'écouter Annie Ernaux.
Je n'aurais pas pu écrire ce livre si je n'avais pas vécu un semblable conflit. Un conflit d'ailleurs tragique pour ceux qui le vivent. Mais par ailleurs, ça ne m'intéressait pas de raconter les événements de ma vie. On ne peut pas dire que ce soit le récit d'aventures vécues comme on fait un reportage sur sa propre vie. Ça a une portée beaucoup plus générale qu'une autobiographie. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu ce conflit entre leur classe d'origine, une classe populaire, et la classe bourgeoise à laquelle ils ont accédé par la réussite sociale, soit la réussite par les études ou la réussite par hasard, par l'argent. Et je crois que ce qui était intéressant, c'était de chercher comment fonctionnait le piège, ce qui pour moi est un piège. C'est d'être coupé, c'est de ne pas voir les aliénations de la classe d'où on sort, d'essayer d'y échapper tout seul, d'être l'exception et de reléguer le véritable problème qui est de se sauver collectivement.
Annie Ernaux qui était interrogée au sujet de son premier roman, Les Armoires Vides, donc c'est une archive qui date, Pierre-Louis Faure, et on voit bien que ça a toujours été un questionnement des journalistes, mais aussi sans doute de l'université par rapport à Annie Ernaux, qui est la question de l'autobiographie. Vous expliquez que, en ce qui concerne La Place, on ne peut pas parler d'autobiographie, mais vous avez une expression qui est l'auto-sociobiographie. Expliquez-nous cela.
Alors, ce n'est pas une expression qui est de moi, c'est une expression qui est d'Annie Ernaux, effectivement.
Alors, vous reprenez cette expression.
Voilà, je la lui emprunte, et puis toute la critique la lui a empruntée, puisque c'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. L'idée, finalement, c'est non pas tant de retrouver le moi, que de le perdre dans une réalité qui est plus vaste. Hein. C'est un petit peu ça que Annie Ernaux veut faire.
C'est ça qui différencie par rapport à ce qu'on appellerait l'autobiographie classique.
Oui. C'est cette idée de la sociologie, finalement, qui va être au cœur du texte. Alors, on va retrouver donc auto-soi-même, socio, donc la sociologie dont on a parlé, puis ensuite bio et graphène. On retrouve les mêmes éléments étymologiques que dans autobiographie. Mais elle le dit dans la place, elle dit, je cite, ce que j'ai... c'est pas dans la place, c'est dans une femme. Mais c'est valable également pour la place. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mmh. Ça nous renvoie aussi à ce dont on parlait tout à l'heure avec l'enfance du père qui est renvoyée à des temps quasiment immémoriaux. Et puis pour terminer sur peut-être sur cette question-là, dans les différents titres qu'Annie Ernaux avait envisagés pour la place, il y avait entre autres éléments pour une ethnologie familiale.
Oui. Donc c'est peut-être un moins bon titre que la place.
Très certainement. Alors oui, surtout que la place est polysémique et dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure, on retrouvait aussi la question de la place très, très concrètement.
Oui, c'est la place, ça aurait pu être la classe aussi sociale. Bon, c'était moins joli, c'était moins réussi, mais enfin, il y a cette idée quand même aussi.
Il y a cette idée. Je pense que le choix de la place est, permet une ouverture un petit peu plus large. Mmh. Plutôt que de se restreindre juste à la question sociale.
Ce qui différencie la place d'une autobiographie, c'est aussi que finalement elle parle énormément de son père. D'ailleurs, l'extrait qu'on a entendu, c'est l'enfance de son père. Donc ça n'est pas à proprement parler une autobiographie, ce serait même plutôt du coup une biographie.
Oui. Mais elle est quand même extrêmement présente dans le texte. Tout est articulé par rapport à elle-même et par rapport à sa vision des choses. Donc on reste quand même dans une sorte d'autobiographie malgré tout. C'est l'idée de cette rupture. À un moment, elle parle de cette distance de classe qui va s'instaurer entre deux et elle va dire comme de l'amour séparé. Et justement, dans cette auto-bio-sociographie, biographie, eh bien, ça va être justement une manière de réparer cette séparation.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce qui constitue un petit peu le cœur aussi de la place, qui est la relation père-fille? Ça paraît quand même si la mère est un personnage, et un personnage fascinant d'ailleurs, ça paraît quand même être le vrai sujet ou l'un des plus grands sujets de ce texte, la relation père-fille. C'est votre avis aussi, Pierre-Louis Faure?
Oui, pour moi, c'est un texte évidemment qui interroge la relation père-fille. Et ce qui est particulièrement frappant dans ce texte-là, c'est la façon dont justement cette relation va se déliter par cette rupture sociale qui se met en place.
Alors qu'elle est très très forte, qu'il y a un amour incroyable entre les deux.
Oui, et on voit bien dans le texte, même qu'une fois que la séparation s'est installée, qu'elle est entérinée aussi par le mariage, qu'ils sont partis à Annecy avec son mari, qui ne vient plus rendre visite à ses parents, parce que ses parents sont bien sympathiques, mais il n'y a pas des conversations intellectuelles à n'en plus finir. Eh bien, tous les efforts que le père d'Annie Ernaux fait pour exister auprès de sa famille.
Et alors, vous faites un certain nombre de comparaisons dans le petit dossier de La Place avec d'autres récits qui mettent en scène des parents et des enfants. Le père Goriot de Balzac, qui s'articule justement autour de cette relation père-fille. Mais il y a aussi d'autres exemples. Il y a Sido de Colette. Il y a, on l'attendait de votre part, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Nathalie Sarraute aussi avec Enfance. Marguerite Duras, Quoi l'éternité. Et même, vous allez chercher Clémence Boulouk et Mort d'un silence. Donc, on est dans une constellation là, un petit peu littéraire. Vous avez voulu mettre ça en avant.
Alors très honnêtement, ça fait partie des contraintes éditoriales et de la commande, cette idée d'ouvrir...
Parfois la commande a du bon, la commande permet de réfléchir, elle fait découvrir des choses.
Oui, c'est l'idée de montrer les résonances finalement sur des textes, notamment du XXe siècle, de la prégnance de cette interrogation et de ce lien extrêmement fort, la façon dont il peut être exploité dans la littérature.
Oui. Tiphaine Samoyeau, qu'on recevait lundi dernier, a eu cette phrase phrase sur la relation mère-fille dans les actes du colloque de Cerisy, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Elle a dit « Écrire chez Annie Ernaux, c'est rester une fille, même quand on est devenu une mère. » Qu'en pensez-vous ?
Alors, je ne sais pas si je serais aussi affirmatif que Tiphaine Samoyau. D'autant plus qu'il y a quand même... à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Annie Ernaux, justement, de façon très concrète, cette idée d'engendrer ses parents par l'écriture. Je ne sais plus si elle le dit très explicitement à propos de son père, mais elle le dit en tout cas. Il y a tout un renversement qui se fait justement sur les positions de l'une et de l'autre. Alors, c'est lié également à la maladie de la mère d'Annie Ernaux, qui fait qu'effectivement, elle va se rapprocher d'une posture d'enfant de plus en plus forte. Mais elle dit qu'en écrivant ce livre, elle a eu l'impression de donner naissance à sa mère.
Merci beaucoup, Pierre-Louis Fort, de nous avoir parlé aujourd'hui d'Annie Ernaux. Je rappelle que vous avez dirigé avec Violaine Oudarmero un volume collectif intitulé Annie Ernaux, un engagement d'écriture paru en 2015 aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Je signale aussi l'édition critique en folio plus classique de La Place, dont on a parlé aujourd'hui, publication qui date de 2006. Demain, pour notre dernier épisode, nous serons en compagnie de Bruno Blankmann pour parler du livre Les Années, mais aussi de la place des chansons dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Dans Vocaluscrit aux éditions Lanskin, on trouve une série de portraits-poèmes des auteurs au travail, en lecture publique performante, face au peuple, ou à la foule des oreilles tendues et des démos, bien entendu. Il y a dans Vocaluscrit aussi une liste de conseils proposés par l'auteur Patrick Beurard-Valdois. Le métier de poète, séance. De notre vivant, la seule vraie révolte eût été le silence, le refus absolu de collaborer, dit Pierre Reverdy dans une citation. Mais le silence dans ce monde où la masse des êtres ne vit que de bruit équivaudrait au néant. Les conseils de Patrick Beurard-Valdois. 1. Demandez votre contrat. Y découvrir que vous apparaissez en intervenant extérieur sur commande, en agent contractuel, répondre que vous ignorez tout de ces professions, en tout cas nullement la vôtre. 2. Demandez votre contrat, conseil 2. À réception, dès l'article 1er, vous devez céder tous vos droits sur l'enregistrement vidéo. Répondre que vous ne pouvez céder votre droit de regard sur un objet inexistant, qui plus est, vous concernant. 3. Demander un micro. Entendre qu'un micro n'est pas nécessaire, que l'acoustique est suffisante et la salle petite, on vous entendra. Répondre pour la centième fois qu'un micro moins qu'amplifié sert à murmurer. Conseil 4. Demander un micro. Découvrir que le micro vous attend sans pied. Assister à la naissance d'un pied fait d'une pile d'ouvrages et dictionnaires de cassettes vidéo et de scotch marron, le tout sur guéridon bancal, être vu sans voix ou entendu sans corps. 5. Demander une salle fermée, sans fanfreluche, avec siège, une enceinte favorable à l'écoute. Vous découvrir dans le hall d'entrée, parmi les va-et-vient d'usagers et de portes coulissantes, pour que ça fasse une animation. Suggérer qu'un auteur de grande surface aurait mieux fait l'affaire, mettre les bouts. Expérience vécue et partagée avec cet auteur, ça fait plaisir. Conseil 7, convenir de lire en troisième pour une durée d'un quart d'heure. Écouter le premier auteur officiant 30 minutes, écouter le deuxième auteur officiant 35 minutes, ayant annoncé par trois fois. Et pour finir, lire 5 minutes quelque chose d'imprévu. Conseil 8, entendre l'organisateur signaler le risque d'un très petit public. Le match de foot, une lecture concurrente ailleurs, la grève des transports. Répondre que c'est juste une question de désir. Rencontrer en effet ce bien peu de monde. Apprendre après coup que les invitations sont parvenues dès le lendemain. Conseil 9. Réclamer après des mois votre cachet. Recevoir enfin une fiche. Répondre au questionnaire diplôme. Pas de diplôme de poète. Salaire moyen, oui, moyen. Attendre, recevoir la moitié du cachet annoncé en représailles.
Merci Jacques Bonafé pour ces portraits de lecteurs de Patrick Berard-Valdois.